Bonjour Yao Liu. Est-ce que je prononce bien Marie Holtzmann?
Très bien, Yao Liu, c'est ça.
Yao Liu. Yao Liu est poète, auteur, musicien. Il a d'ailleurs appris à jouer de la flûte en prison auprès d'un moine qui lui a enseigné la flûte. Et d'ailleurs, j'ai entendu Marie Holtzmann, ce qui montre quand même le tempérament de l'homme qui est avec nous, qui n'a pas été reçu comme c'était prévu par la ministre française de la Culture et qu'il a été joué de la flûte sous ses fenêtres, c'est vrai?
Oui, c'est vrai, on était à deux pas de chez elle, alors on s'est dit, bah, puisqu'on n'entre pas dans ses bureaux, on va au moins aller lui faire un petit air de musique. Donc on s'est mis entre les colonnes de Buren et on a fait de la musique.
Oui, alors quand ça se passe en France, bah, ça fait sourire et on s'en amuse. Si c'était en Chine, il serait retourné en prison. Mais on va revenir sur cet épisode effroyable qu'a vécu Liao Yiwu, parce que là, on en parle avec un sourire dans la voix. C'est un livre de pas loin de 600 pages. C'est véritablement la description minutieuse, intime, d'un monde abominable. Le titre de cet essai, c'est « Dans l'empire des ténèbres », et avec un bandeau rouge sur lequel il est inscrit « Le livre que Pékin voulait brûler ». C'est un livre qui est paru aux éditions Françoise Bourin. On reviendra longuement sur le contenu de ce livre dans un instant, mais peut-être d'abord, Jean Pierrot, les questions que tu as posées sur l'extraordinaire courage vraiment, à être un dissident dans un pays comme la Chine aujourd'hui.
Bien, la question principale qui résume toutes celles que j'ai posées, c'est la force d'être en pensant différemment. Comment qualifier la conviction d'un dissident ?
Moi, je les admire. Ils sont menacés, leurs familles sont menacées, donc surtout pour ceux qui restent dans leur pays. Pour moi, ce sont des hommes ou des femmes héroïques. Parce qu'il faut pouvoir affronter tout ça et surtout garder tout ce pour quoi on se bat jusqu'au bout, jusqu'à ce que malheureusement, comme la journaliste russe qui s'est fait assassiner, voilà.
Je la qualifierais de courageuse. Elle vise à apporter une représentation différente de celle qui prévaut et... Souvent, elle procède d'une forme d'abnégation et de transgression, de libération de soi-même, d'affirmation, d'opposition et de générosité.
Être dissident, c'est être seul ?
Pour moi, oui, parce que c'est une opinion propre. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera toujours seul. On sera abandonné, quoi qu'il arrive, parce que les gens auront peur.
C'est être souvent précurseur, pionnier. Je pense que tous les leaders sont un peu dissidents. Montre le chemin, enfin, c'est ce qu'ils espèrent faire en tout cas.
Pacifisme et dissidence, est-ce pareil ?
Non, parce que je pense que si on est dissident, on peut malgré tout intervenir d'une manière peut-être un peu plus musclée.
Bah, l'exemple, évidemment, c'est Gandhi. Par son courage, sa volonté et son intelligence, a su faire céder l'Empire britannique. Il a bien montré que le pacifisme pouvait être un procédé extraordinairement efficace dans la dissidence.
Entre raison d'État et morale, si vous étiez présidente de la République, où vous situeriez-vous ?
Alors là, c'est pas évident. Il faut savoir garder les pieds sur terre, rester neutre. L'économie du pays est plus importante qu'une seule personne. Dans ces cas-là, il faut savoir les protéger, tout en essayant malgré tout de garder de la diplomatie avec le pays concerné. Le dissident passe en seconde position. À choisir ?
La morale passe en seconde.
Ouais, ça c'est certain.
La raison d'État... Ne serait-elle pas parfois une forme de déni collectif ?
Si, moi je pense quelque part que c'est ça. Quand ça nous arrange, c'est facile de rien voir, de rien entendre.
Quand on délègue à notre représentant les rênes des responsabilités, d'une certaine manière, ensuite on se repose un peu collectivement sur sa personne et peut-être sur sa solitude pour qu'il assume seul des décisions qu'individuellement on ne veut pas affronter.
Yao Liu, il était question dans ces questions posées par Jean Pierrot de Gandhi et du pacifisme. Vous avez montré, vous, qu'avec la poésie, on peut faire vaciller un empire.
Oui, mais... Le gouvernement chinois n'a pas vraiment peur, peur de moi, il n'a pas besoin. Je ne suis pas vraiment un dissident non plus. Moi, je me trouve comme quelqu'un de tout à fait raisonnable et sage. Et si dire la vérité, c'est être un dissident, alors il y a beaucoup de Chinois qui sont des dissidents. Mais évidemment, eux, ils n'osent dire la vérité qu'à la, dans les murs de leur maison, en famille. Et moi, je suis un peu plus, disons, extraverti, je dis ça en public.
Mais moi, je pense, après vous avoir lu, qu'au contraire, le gouvernement chinois a très peur de vous, parce que sinon... Il ne vous aurait pas enfermé de façon aussi brutale.
Quand j'écrivais mon livre, j'espérais que le gouvernement chinois me laisserait tranquille. Et pendant que j'étais en train d'écrire mes mémoires, mes souvenirs de cette prison, bon, bah, je faisais mon travail, quoi. Et je pensais qu'il n'y avait rien de plus, mais eux, ils n'ont pas vu ça comme ça.
Mais Marie Holtzmann, une question que je pose à la sinologue que vous êtes d'ailleurs souvent venue dans 3D pour nous parler de la Chine, il se trouve que vous avez traduit, et ça n'était sûrement pas facile, le livre écrit par ce poète, 600 pages, vous l'avez écrit parce que vous êtes la seule à avoir voulu le faire, tous les autres avaient tellement peur.
Non, possibles
représailles qui n'ont pas voulu s'embarquer là-dedans.
Non, il ne faut pas exagérer. Non, la traduction écrite, d'abord, je n'ai pas traduit toute seule, on a été trois à travailler là-dessus. La traduction écrite, ça va encore. Ce n'est pas tous les sinologues qui s'engagent dans ce genre de traduction, c'est vrai. Mais c'est la traduction orale qui nous a posé problème. Si aujourd'hui, Liao Yiu n'est pas accompagné par un interprète professionnel, c'est que pratiquement tous les interprètes professionnels ont eu peur pour leur carrière. On a eu cette expérience à plusieurs reprises.
C'est dire tout de même, quoi.
Mais tout à fait. Non, mais à Paris, l'influence de l'ambassade de Chine est très forte et l'autocensure est incroyablement forte aussi.
C'est incroyable de voir à quel point, en effet, cet homme, pour son poème Massacre, qui est un hommage et en même temps une dénonciation de ce qui s'est passé place Tiananmen à Pékin. Et ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'il n'était pas à place Tiananmen. Et que ce poème lui est venu comment, au fond? Pourquoi a-t-il écrit Massacre?
À
l'époque, j'écoutais la radio. On avait quand même des informations. On savait que l'armée était en train de se rapprocher de la place Tiananmen. Et il y avait aussi des sons qui venaient jusqu'à nous. Donc, on entendait des slogans. C'était une période étonnante. Et moi, je me trouvais à Fuling, dans un petit village. Et même dans cette ville, il y avait plein de soldats partout. Ils portaient les fusils. Et je me disais, il ne peut que se produire un massacre.
Et ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs, il décrit tout ce qu'il voit quand il va se mettre au balcon. Il décrit les bruits, les sons. Et on est dans le champ poétique et en même temps dans la barbarie. Mais dans le champ poétique, il décrit ça par moments comme un orage. Il s'interroge sur ce qui est en train de se passer, sur les bruits.
Ce jour-là, à Fuling, il y avait des mouvements des policiers, de l'armée. Il y avait aussi la peur qui était provoquée par tout ce qu'on entendait. Et c'est toute la ville qui était complètement électrifiée par ces nouvelles. Et moi, j'étais très, très, très tendue et j'avais envie de me révolter contre ce qui se passait. Et donc, je peux dire que tout ce que je pensais, toutes mes réactions, c'était un peu fou, quoi. C'est vrai, je reconnais.
Et c'est de là que naît Massacre. C'est de ce moment-là que naît Massacre.
Oui, bien sûr, c'est de cette folie qu'est né ce poème. Mais c'était aussi la terreur, parce que je sentais que le massacre était inévitable, même qu'il ne s'était pas encore produit à ce moment-là. Mais je savais qu'on allait vers ça. Et je crois que l'art, c'est précisément ça. C'est de ressentir intensément la terreur et d'arriver à l'exprimer même avant l'événement. Plus la terreur est forte, et plus l'énergie qui s'en dégage est forte aussi.
Mais ce qui est étonnant, c'est que cette folie qu'il décrit, y compris la sienne même, hein, dans cet événement-là, n'est rien à côté de la folie qu'il va trouver dans l'enceinte de la prison.
Après, je n'ai pas été arrêté tout de suite. Après, j'ai voulu créer un DVD qui aurait été une reproduction poétique de ce massacre, à la fois avec mon poème et des images. Et on a réussi à faire circuler un certain nombre de DVD, de CD. Et je crois que c'est allé dans presque toutes les grandes villes de Chine. Mais entre-temps, le DVD a complètement disparu. On ne peut plus le mettre la main sur quoi que ce soit.
Il raconte même de façon assez drôle, hein, les conditions dans lesquelles, avec ses amis, ils ont imaginé faire un film, faire un scénario, comment ils ont réfléchi ensemble au scénario. Sauf que c'est ça qui, tout de même, va l'amener dans les geôles.
En fait, on était tous ensemble et on n'a même pas réfléchi à l'acte politique qu'on était en train de créer. Nous, on était des poètes un peu fous et on pensait qu'on était des artistes d'avant-garde. Si on avait pensé qu'on était en train de faire de la politique, il est possible qu'on n'aurait pas osé faire ce qu'on a fait.
Bien sûr. Mais quand il arrive en prison, j'en reviens à la folie.
Je me permets de dire qu'ils sont arrivés. C'est toute l'équipe qui s'est retrouvée en prison,
Bien sûr, seulement tous. Tous, mais pas ensemble. Il est arrivé qu'ils se rencontrent à nouveau, qu'ils se croisent.
Oui, non, mais ils ont tous été arrêtés à peu près au même moment.
Bien sûr. Alors, la prison, mais c'est délirant. C'est même dément ce qu'il décrit de la prison. Alors pour un occidental qui lit ça, presque des choses au début qui sont inattendues, les menus et les noms donnés aux menus en prison, on est dans le champ poétique, on se dit mais ça doit être délicieux ce dont il parle. On ne comprend qu'au bout de quelques secondes qu'en réalité ces menus et ces plats, ce sont des tortures imposées aux détenus.
Il faut voir qu'on est au Sichuan et que les Sichuanais adorent la cuisine. Donc ils sont forts sur les noms des plats. Et donc en prison, il y a eu cette espèce de dérive qu'on a pris un menu, on l'a transformé en torture. Pour nous, les Sichuanais, c'est assez banal et il y a ça dans toutes les prisons du Sichuan. Et pour nous, les prisonniers, donc, on a tous vécu ce fameux menu de torture. Donc, j'ai voulu enregistrer. Et moi, il m'a dit qu'il a réussi à enregistrer, je ne sais plus combien de noms de plats, 80 plats, mais qu'il y en avait beaucoup plus. Mais que sa mémoire s'est un peu échappée.
Marie Holzmann, chaque plat étant une torture abominable. Il s'agit d'ébouillanter des hommes en leur trempant les fesses dans des bacs d'eau ébouillantée. Et il s'agit de leur pincer les lèvres avec des baguettes jusqu'au moment où les lèvres sont à la limite d'exploser. Enfin, voilà les fameux plats.
En prison, c'est comme ça la vie. Moi, je pense que ce n'est pas pour ça qu'un dissident doit s'opposer au Parti communiste chinois. Ça, c'est la vie en prison, c'est quelque chose à part. Par exemple, on ne peut pas imaginer que Hitler ait inventé les fours crématoires. Mais bon, c'est un épisode de l'histoire. L'impensable est toujours possible. Et chez nous, cet impensable devient, je ne dirais pas banal, mais pensable, quoi.
Ce qui était étonnant aussi, c'est la reconstruction d'un système social. Alors ça, on le trouve dans toutes les prisons du monde. Mais là, le chef qui accueille chaque prisonnier qui arrive en lui indiquant sa place dans la cellule, y compris l'endroit où il va dormir. Il y a une espèce de ritualisation troublante dans la prison chinoise telle qu'il l'a vécue.
On peut dire que la prison, c'est le microcosme de la société chinoise. Et donc, dans la prison, comment ça se passe? Eh ben, ça se reflète dans le pays et vice-versa. Alors, à la prison, par exemple, le chef, il n'est pas élu. C'est le policier qui vous désigne. Il dit, c'est toi qui seras le chef de la cellule. Et après, il a un pouvoir extraordinaire. Et sur les autres prisonniers, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire le lavage de cerveau. Il peut nier l'existence du prisonnier. Et ce n'est pas vraiment un processus démocratique. Ça nous est imposé aussi, ce système à l'intérieur de la cellule. Et personne ne peut déterminer son propre destin. Tout lui est imposé par en haut. C'est ça notre pays. À chaque moment, c'est comme ça.
Sauf qu'on voit très bien que lui, contre-révolutionnaire, comme on l'appelle, contre-révolutionnaire, par son statut de contre-révolutionnaire et de poète, est souvent reconnu par les chefs comme étant un personnage dont il faut tenir compte. Il faut aménager sa place dans la cellule.
Oui, au début, c'était comme ça. Mais petit à petit, ça se détériore, vous savez. Hein.
Oui.
Au début, bon, j'ai mon prestige. Mais ça s'effrite très vite. Et puis, de toute façon, il faut bien s'intégrer à ce milieu. Vous ne pouvez pas rester le poulet lointain tout le temps. Et puis, les policiers ont trouvé les moyens de m'obliger à m'intégrer et à devenir un prisonnier comme les autres, finalement.
Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir les ressources d'humanité qu'il peut trouver en lui-même, car il parle de certains gardiens, par moments, avec, oui, une, sinon de la sympathie, mais en tout cas, oui, une épaisseur humaine. Il y en a certains qui étaient moins mauvais que d'autres, dit-il.
Ça, c'est peut-être un peu surtout au moment de l'écriture. Donc, pendant l'écriture, j'avais la distance et donc je pouvais avoir un peu d'empathie pour ces personnages. Sur le coup, quand j'étais avec eux, je ne sais pas si j'avais beaucoup d'empathie. Quand ils me tabassaient dans tous les coins, qu'ils me torturaient, qu'ils me matraquaient, qu'est-ce que je pouvais ressentir comme compassion? Non, ce n'était pas possible. C'est après, avec le recul. Et donc, la littérature m'a permis de passer par ce nettoyage de la compassion, heureusement.
Il cite une phrase que même les rats ont parfois de la compassion entre eux. La compassion, moi, je l'ai trouvée quand même, et de façon très émouvante d'ailleurs, dans les conversations, même si elles sont très brèves, avec les condamnés à mort, ceux qui savent qu'ils vont mourir.
Bien sûr, entre prisonniers, c'était comme entre les rats, quoi. De temps en temps, un rat peut se caresser un peu à un autre rat. Et on était un peu à ce niveau-là d'humanité. Et c'est vrai que j'ai toujours réagi comme ça par rapport aux autres humains. Je continue à avoir de temps en temps envie de me frotter un peu le front contre mon voisin, sentir un peu de chaleur physique comme ça.
Et ces moments absolument ahurissants, il n'y a pas d'autre mot. Chang le mort est condamné à mort. On vient le chercher. Il sort de la cellule et Liao Yiwu le voit partir. Et puis il y a un orage, à un moment donné, il se passe quelque chose de fort. Et voilà que l'image de cet homme est là. Et tout le monde se dit, mais c'est pas possible, il est mort et il revient.
Oui, ça c'était une histoire incroyable. Il y avait un homonyme et tous les deux avaient été des trafiquants de drogue. Et donc celui-là, on a cru que c'était celui qui devait être exécuté ce jour-là, mais c'était pas lui, c'était l'autre. Et quand il est revenu, nous on a tous pensé qu'il avait déjà été fusillé. Et en le voyant dans la porte, évidemment, on a tous été pris de terreur. On lui a dit, mais comment est-ce que tu as pu revenir? Et c'est là qu'il nous a raconté tout ce qui lui était arrivé, comment il était resté sur un lit d'hôpital. On lui avait prélevé tout son sang et probablement on s'apprêtait à l'opérer de je ne sais pas quoi.
Des organes, probablement des prélèvements d'organes.
Probablement, mais bon, et juste à temps, il a échappé à ça, puisque c'est l'autre Chang, son homonyme, qui a dû y passer. Ça, évidemment, on n'en sait rien. Mais en tout cas, lui, on a enlevé les piqûres qu'il avait dans les veines, là, et puis il est revenu. Et alors, une fois qu'on a compris qu'il y a eu une erreur sur le nom et sur la personne, pour nous, on était blasés, quoi. Ah bon, ils se sont trompés. Bon, ils se sont trompés. Puis voilà, puis c'est passé. Même si lui, il a mis plusieurs jours à s'en remettre. Après, c'est devenu un sujet de blague entre nous. Et après, on faisait des blagues et donc on disait, bon, ben, la prochaine fois qu'on te fusillera, on espère que tu seras fusillé d'un coup, hein, parce que si jamais tu meurs pas tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Et alors, oh non, il raconte des histoires que je ne peux pas traduire. Comment on mettrait une petite cuillère dans la cervelle pour essayer d'activer la mort ? Excusez-moi. Alors, on a raconté des tas d'histoires. Si on te fusille, tu vas tomber sur le devant ou sur le derrière de ta tête. Et si tu fermes sur le... Si tu tombes comme ça, est-ce que ça va provoquer une défécation inattendue ? Etc., etc. Donc, c'était des sujets de plaisanterie qui circulaient entre nous. Et de temps en temps, je regardais les autres prisonniers qui étaient avec nous, parce qu'il y avait beaucoup de meurtriers quand même avec nous. Et donc, tous avaient quand même des espoirs. Ils espéraient que quelque chose allait se passer pour eux, mais les espoirs ne se réalisaient jamais.
Eh bien, ce qui vient de se passer est vraiment intéressant, parce que ce qu'il décrit est d'une violence, d'une brutalité effrayante, la petite cuillère dans la cervelle. Et ce qui est troublant et décidément émouvant, parce que ça nous renvoie à la grande question ontologique, quoi, l'homme, la question de l'humain, il y a des univers troublants et poétiques. Les petits enfants condamnés à mort, parce qu'ils sont très jeunes, certains d'entre eux, parce qu'ils ont volé à l'âge de 10 ans, parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de survivre que de voler, mais qui sont condamnés pour ça, sont capables d'avoir un raisonnement sur l'après, la vie après la mort, sur des choses qui nous paraissent, oui, de l'ordre du champ poétique dans cette barbarie-là. Ça, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire apparaître.
C'est vrai, je dois dire quand même que ces dimensions politiques, je les ai aussi ressenties au moment de la mémoire, au moment de l'écriture. Et puis, il faut savoir aussi que les Sichuanais en Chine sont ceux qui ont le plus d'humour dans toute la Chine. Et c'est l'humour qui est leur bouclier.
La résistance.
Et quand ils n'ont plus d'autres méthodes, ils utilisent toujours l'humour. Et en dehors de l'humour, qu'est-ce qu'il nous restait ? Rien.
Alors l'humour, décidément, il a mis 14 ans à écrire ce livre, parce que chaque fois qu'il l'écrivait, on venait lui prendre et on le supprimait, le livre. Et il écrit à propos de l'humour que finalement, ceux qui connaissent le mieux son livre, et mieux que lui-même, ce sont les censeurs politiques chinois.
Ça, c'est sûr, ils ont tout étudié. Chaque policier a lu soigneusement tous mes écrits et ils ont connu toutes les versions de mes écrits, surtout. Vous, vous connaissez que la dernière. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu de littérature française et je pensais que la lecture française, c'était une littérature qu'on pouvait lire dans les salons, qui était très élitiste, qui avait des belles dames qui écoutaient ça et ça me faisait rêver. Et moi, je ne pensais pas que j'arriverais à écrire des choses aussi horribles, des choses qui sont illisibles dans les beaux salons. Mais en fait, en Chine, ma littérature s'est quand même beaucoup vendue au marché souterrain, dans les marchés aux puces, ça a été piraté. Donc, mes lecteurs sont des lecteurs vraiment des bas-fonds de la société. Ce n'est pas du tout l'élite comme chez vous.
Alors, une dernière chose, quand on a vécu des épreuves comme celle qu'il a vécue, je pense notamment à ceux qui sont sortis des camps de la mort, puisqu'on parlait de Hitler tout à l'heure. Il y a quelque chose qui relève de l'indicible, c'est-à-dire que même en prenant le temps de raconter, ceux qui entendent ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent, tellement c'est monstrueux. Ces 600 pages-là, c'est son combat à lui contre l'indicible.
C'est 反对这个我被忘记的这个奋斗，是不是？
En
Occident, on aime beaucoup la liberté, mais en Chine, aimer la liberté, c'est un crime. Et moi, j'ai aimé la liberté. J'ai voulu être un homme honnête et je me suis retrouvé sous la forme d'un criminel. Donc, je dis souvent, dans le gouvernement chinois, on ferait mieux d'être dirigé par des porcs, parce que quand un porc a bien mangé, il se repose, il fait la sieste et il embête personne. Il n'ira pas nous dire « votre livre est mal écrit, ce que vous dites, c'est pas juste ». Et moi, je trouve que tout le Parti communiste ne vaut pas un seul cochon. Mais si je disais cette phrase-là en Chine, alors je serais au moins puni de 5 ans de prison, ça c'est sûr.
Démonstration est faite que la prison est la pire qui soit, ne peut rien contre le tempérament d'un homme. Dans l'Empire des Ténèbres, le livre que Pékin voulait brûler, c'est aux éditions Françoise Bourin. Merci beaucoup de votre présence, Liao Yiwu.
Non, mais je dis que la vérité, vous savez.
Oh ben, on a bien compris, oui.
De toute façon, s'il m'insulte et qu'il me traite de cochon, ça ne me gêne pas.
Merci à vous, Marie Holtzmann, d'avoir traduit et le livre et la parole de Liao Yiwu. Merci infiniment. Dans l'Empire des Ténèbres, c'est aux éditions Françoise Bourin. C'est un témoignage ahurissant. Enfin, mes questions n'étaient même pas à la hauteur de la puissance narrative de ce livre. Un petit baiser, Manon Deva, pour conclure.
Pas facile.
Parce qu'il est tard
oui,
déjà.
Oui, alors, il faut arrêter le mal avant qu'il n'existe. Cette citation de Lao Tse est sage, certes, mais totalement impossible. Trop tard, le mal est fait et il est bien là. Il paraîtrait pourtant que le mal n'existerait pas et que ce ne serait qu'un manque de lumière. Et à la lecture de vos livres, Liao Yiwu, on ne peut que se poser des questions. Mais la question du mal est vaste. Mais remettons ça à un autre jour. J'essayais de biaiser, de récolter par brouette chinoise des infos un peu positives sur la Chine, de trouver un angle arrondi pour mon papier. Mais comme vous le savez, le papier peut être coupant. La blessure est très fine, mais la douleur vive. Et c'est l'œil un peu panda, le rimmel coulant sur la joue, que j'ai écrit après avoir lu vos poèmes de prison, poèmes précédés par deux textes en prose, Le Grand Massacre et L'âme endormie. On en prend plein la tête et on est même, disons-le, sonné. Votre cri de douleur est terrifiant et magnifique. Dieu bénisse la poésie. Elle n'est pas que bluette sur les roses et le gazouillis des oiseaux. La Chine, empire nouveau riche, affamé de pouvoir, n'a pas le monopole de l'inhumanité. Et à la lecture de vos écrits, l'expression « l'homme est un loup pour l'homme » me laisse dubitative. Ce que vous avez subi, aucun autre animal n'aurait jamais fait ça. Ce qui nous distinguerait de l'animal, ce serait la conscience. Conscience, vous avez dit conscience. Votre plume, Liu, trempé dans le sang n'aura jamais le destin de ces phrases inscrites sur le sable qui meurent effacées par les vagues. Vos livres viendraient à disparaître que vos phrases, même longues, comme vous la reprochez votre mère, sont en nous à jamais indélébiles. On ne peut les oublier et le message qu'elles nous délivrent est fort. Le verbe délivrer, c'est-à-dire donner, mais en même temps délivrer qui nous donne l'information et nous délivre de l'ignorance. Écrire, c'est agir, c'est s'engager, c'est résister, c'est transmettre, c'est marcher à l'air libre, main dans la main, avec la liberté. Même si on est enfermé au fin fond d'une geôle puante. Le cauchemar a été votre réalité une souffrance. Et pourtant, dans vos livres, l'humour est là, noir bien sûr, mais le noir sied si bien à l'humour. Sourire, rire pour que ce putain de désespoir ne se gausse pas de sa victoire. Pour finir, j'aimerais vous remercier pour votre talent, votre courage, votre liberté retrouvée, votre pudeur et votre élégance. On ne peut pas en dire autant pour tout le monde. En effet, vous aviez rendez-vous avec notre ministre de la Culture. Rendez-vous annulé à la toute dernière minute. Vous avez été royal en réponse à cette annulation. Vous êtes allé jouer de la flûte sur les fenêtres de Madame Filippetti. Une annulation peut-être ou peut-être pas pour ne pas froisser nos puissants amis chinois avec qui nous signons de gros contrats. Ah, la diplomatie, ou l'art de ménager la chèvre et le chou. Mais à force, on peut finir par avoir le cul entre deux chaises. Une position pas très agréable, mais qui sied bien à l'ensemble des hommes et des femmes politiques. À croire qu'ils aiment ça et que ça leur fait des choses. Qui sait, ça soulage peut-être leurs hémorroïdes.
Si vous continuez comme ça, vous êtes obligé de faire 600 pages, vous aussi, un séjour. Hein. Merci à Jason Taous et à Arnaud Chapat d'avoir permis à ce 3D d'exister au studio 109 de la Maison de la Radio. Merci à Camille Blanès qui a qui m'a aidé à préparer l'émission, et à Maïté Adam qui l'a réalisée.